Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» Une émission que nous avons souhaité consacrer cette semaine à la question de l'aide alimentaire, des acteurs de l'aide alimentaire, les banques alimentaires, les associations caritatives qui préparent les futures campagnes de collecte et de distribution dans un contexte extrêmement particulier, avec une inflation qui est très importante, avec également une crise énergétique qui frappe tous les ménages, et y compris aussi les associations. Et donc, on a souhaité, pour en parler aujourd'hui, avoir Madame Laurence Champier, qui est directrice générale de la Fédération des banques alimentaires. Bonjour.
Bonjour.
Peut-être, avant de répondre à nos questions, pourriez-vous nous présenter les associations dont vous êtes la représentante, les banques alimentaires, qui ont, les gens ne le savent pas toujours, un rôle aujourd'hui extrêmement important, avec des milliers d'associations et de points de distribution un petit peu partout dans toute la France.
Oui, alors les banques alimentaires, nous sommes le premier réseau d'aide alimentaire en France. Nous avons distribué l'an dernier l'équivalent de 264 millions de repas en France métropolitaine, mais aussi aux Antilles, à La Réunion. Et notre mission, c'est de fournir des denrées alimentaires, effectivement, à plus de 5 700 partenaires, associations, épiceries sociales, centres communaux d'action sociaux, sur tout le territoire, et de manière à laisser ces associations s'occuper de l'accompagnement social. Donc on est, pour schématiser, une énorme plateforme logistique solidaire alimentaire. Et ce sont près de 130 000 tonnes qui passent dans nos entrepôts chaque année, d'où un impact très important, effectivement, de cette hausse de l'énergie que l'on connaît actuellement.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la collecte de denrées alimentaires, ça nécessite parfois une chaîne du froid, des conditions de stockage qui nécessitent des locaux qui sont réfrigérés ou chauffés. Enfin, en tout cas, il y a sans doute des besoins importants en énergie et en infrastructure, et du coup vous avez un petit peu tiré la sonnette d'alarme depuis quelques jours, quelques semaines, sur le fait que si vous ne bénéficiez pas, vous aussi comme d'autres, du bouclier tarifaire énergétique que le gouvernement envisage de mettre en place dans le prochain budget, vous seriez potentiellement en grande difficulté.
Exactement, puisque le réseau des banques alimentaires, c'est plus de 130 000 mètres carrés d'entrepôts, de chambres froides, c'est plus de 500 véhicules qui tous les jours sillonnent les routes pour aller chercher des denrées alimentaires ou les distribuer. Et on a notamment des épiceries sociales itinérantes qui vont en milieu rural distribuer au plus près des personnes des produits alimentaires. Donc tout ça a un coût. Ça a un coût déjà effectivement pour le gazoil, et on n'a pas de prix particulier. Et puis vous le disiez sur le prix de l'électricité, un petit exemple, la banque alimentaire du Finistère me disait ce matin que sa facture d'électricité a été multipliée par 4. Elle est passée de 18 000 euros à 72 000 euros en 2022 par rapport à 2021. Et ça, c'est une grande difficulté parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'y faire face.
Et donc, effectivement, vous avez, avec d'autres associations et d'autres acteurs de l'aide alimentaire, lancé un petit peu un signal d'alarme en direction du gouvernement. Et il semblerait, mais peut-être que vous avez des informations plus récentes, que le gouvernement ait entendu et prépare peut-être un amendement ou une nouvelle écriture de la loi de finances.
Alors effectivement, l'Assemblée nationale et des députés travaillent sur ce sujet depuis quelques jours. L'alerte que nous avons faite depuis dimanche porte vraiment sur effectivement l'inclusion des associations dans les dispositifs de bouclier tarifaire et ou de nous désigner, comme c'était le cas pendant le Covid, comme activité essentielle pour qu'on ne soit pas impacté par les coupures électriques. En fait, il y a vraiment deux sujets extrêmement importants. Il y a le coût de la facturation qui est en train d'augmenter, et puis il y a la continuité de l'activité. Si jamais nos chambres froides ou nos frigos connaissent des coupures électriques, c'est des milliers de produits qui ne pourront plus être distribués, puisque les banques alimentaires travaillent dans le respect des règles d'hygiène et sécurité des aliments. Donc des fromages, des produits laitiers, de la viande, du poisson, sont conservés dans des chambres froides entre 0 et 4 degrés. Et le moindre écart de température rendrait impropre ces produits à la distribution.
Et là, ça renvoie effectivement à la question de la crise énergétique et la crainte qu'à un moment donné, il y ait des coupures générales sur le réseau et donc avec des impacts qui peuvent effectivement, pour votre activité en particulier, avoir des conséquences dramatiques.
Et, oui, et puis ces conséquences dramatiques, elles sont évidemment d'autant plus fortes, c'est que depuis le début de l'année, on a une augmentation du nombre de personnes qui viennent à l'aide alimentaire dans notre réseau. C'est plus 9%. Qui sont des personnes qui sont impactées par l'inflation, par la baisse de leur pouvoir d'achat, des conséquences du Covid, etc. Donc, à un moment donné où notre mission devient, je dirais, encore plus essentielle, d'année en année, où on voit une montée de la précarité alimentaire qui ne faiblit pas, c'est le moment où, en même temps, on a une certaine inquiétude sur la continuité de notre mission, effectivement, des coupures électriques ou des factures qu'on ne pourra pas honorer.
Alors, un autre sujet qui doit vous préoccuper, c'est que traditionnellement, une partie des denrées alimentaires sont collectées directement auprès des consommateurs dans beaucoup de grandes surfaces ou de surfaces alimentaires. Je le sais puisque dans ma commune, chaque année, on a rendez-vous avec les banques alimentaires qui font la collecte et je sais que beaucoup de gens y participent. Est-ce que justement vous avez des craintes avec ce prix de l'énergie qui explose et puis l'inflation, que les gens qui ont l'habitude de participer à ces collectes, qui font des dons, restreignent un petit peu et donc de peut-être collecter moins de denrées que les autres années?
Ah bah c'est sûr que c'est une grosse inquiétude, hein, la collecte nationale des banques alimentaires qui effectivement est un grand rendez-vous de solidarité qui a lieu tous les derniers week-ends de novembre chaque année, nous permet d'approvisionner nos banques alimentaires entre 10 et 12 000 tonnes de produits.
Ça représente quel pourcentage au global?
Alors,
à peu près?
C'est environ entre 10 et 12 % selon les années.
D'accord.
Donc c'est pas négligeable, évidemment. Ce sont des produits qui sont, et vous aviez raison de le dire, qui sont collectés dans 8000 points de collecte aujourd'hui, et surtout qui sont des produits qui restent à proximité. C'est-à-dire que le geste de donner une boîte de conserve, une bouteille d'huile ou un paquet de gâteaux ou un paquet de farine, ces produits vont être distribués par les associations partenaires du réseau des banques alimentaires à proximité du magasin où elles auront été collectées. Donc on a un fort ancrage territorial. Et le donateur, c'est que quand il fait un petit geste, il donne une petite part de ses courses, ça va aider quelqu'un qui est à côté de chez lui. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est un don très simple à faire. Mais cette année, on a des inquiétudes, effectivement, parce que le budget alimentation augmente dans les ménages, hein. C'est vraiment le budget après l'énergie qui explose, les prix de vente des produits alimentaires explosent. Et donc, est-ce que on va pouvoir avoir le même soutien, le même engagement, la même générosité? C'est une grande question. Aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est pour ça aussi qu'on fait un appel aux dons financiers pour la troisième année consécutive, de manière à pouvoir soit acheter des produits, soit pouvoir financer la mission des banques alimentaires, parce que si nous n'avons pas ces produits le dernier week-end de novembre, on ne pourra pas faire face non plus à cette augmentation du nombre de bénéficiaires et continuer notre mission sereinement.
Alors, quels sont vos autres moyens d'approvisionnement? Est-ce que, par exemple, vous travaillez sans doute avec la grande distribution? Vous achetez aussi avec les dons qui sont collectés des denrées alimentaires. Est-ce que vous pouvez envisager, par exemple, si jamais vous étiez en difficulté sur la collecte volontaire, d'avoir peut-être un coup de pouce des grandes enseignes alimentaires? Est-ce que vous avez des discussions? Est-ce que c'est envisageable?
Alors, aujourd'hui, on a effectivement des partenariats avec toutes les enseignes de la grande distribution, la majorité des industries agroalimentaires. Et d'ailleurs, dans le cadre de la collecte nationale, on lance tous les ans, début novembre, une plateforme qui s'appelle Mon Panier Solidaire. Et donc, ça permet aux donateurs, hein, aux individus citoyens, de faire un don aux banques alimentaires et que ces dons seront fléchés vers l'achat de denrées. Et aujourd'hui, on a 6 industries de l'agroalimentaire qui se sont associés avec nous, on espère qu'on en aura beaucoup d'autres, et qui ont décidé d'abonder. C'est-à-dire que pour un repas offert, ils vont donner X kilos de produits aux banques alimentaires. Donc ça, je dirais que c'est un partenariat qui se développe, qui fonctionne bien. L'autre moyen de pouvoir faire face, eh bien, c'est d'acheter des denrées alimentaires, d'acheter des produits. Et là, on va faire appel aux dons financiers du grand public sur notre site banquealimentaire.org, de manière à pouvoir nous apporter un apport financier complémentaire et pouvoir faire face éventuellement à une pénurie de produits.
Alors, vous indiquiez dans les éléments que vous communiquez régulièrement qu'une part significative des bénéficiaires, 30%, étaient des femmes seules avec enfants.
Oui.
Et que c'était souvent bien indispensable, en particulier à ces familles les plus précaires, les plus modestes, pour tout simplement se nourrir. C'était aussi un moyen de rappeler à quel point certaines familles sont dépendantes de ces distributions et donc que l'enjeu était crucial de ne pas se retrouver dans des difficultés insurmontables au moment où l'hiver arrive.
Bah, c'est-à-dire que les banques alimentaires considèrent que l'aide alimentaire, c'est une porte d'inclusion sociale. Donc la distribution alimentaire, elle est toujours assortie d'une action d'accompagnement social, justement, pour pas mettre ces personnes dans la dépendance, mais leur permettre, au travers d'accompagnement social, eh bien, de retrouver un emploi, de retrouver l'estime de soi, qui est extrêmement important quand vous êtes en situation de précarité, c'est parfois difficile, de pouvoir participer à des ateliers cuisine qui sortent un peu du quotidien, à des ateliers de prévention santé, etc. Donc vraiment, l'alimentation est un levier d'inclusion, une porte d'inclusion, mais c'est aussi, et c'est très important, l'équivalent de 92 euros par mois qui sont donnés en produits en nature. Et donc on a à la fois un colis. Dans une épicerie sociale, les personnes vont choisir les produits qu'elles vont acheter, elles vont les payer 15% de la valeur qu'elles devraient les payer en grande surface, et assorties d'un accompagnement par des bénévoles, par des travailleurs sociaux, toujours avec l'idée que ce passage à l'aide alimentaire, on le souhaite le plus court possible, le plus transitoire possible, mais que ça soit le plus concret possible. Et nous, c'est pour ça que notre aide, elle passe par de l'aide en nature, avec des produits, et on y tient beaucoup.
Oui, et vous le disiez aussi, il y a des épiceries sociales, donc c'est-à-dire que les gens qui peuvent contribuer peuvent acheter des denrées alimentaires, mais à des prix qui sont évidemment inférieurs à ceux des surfaces alimentaires, on va dire, classiques qu'on trouve un peu partout.
Voilà, alors l'aide alimentaire, elle n'a pas vocation à remplacer totalement les achats que vont faire les personnes. Mais quand vous avez déjà l'équivalent de 92 euros par mois en denrées alimentaires, ça vous permet de faire face à d'autres dépenses contraintes, hein, déjà de payer son loyer, de payer ses factures d'énergie, sa téléphonie, etc. Et de ne pas se mettre dans le rouge encore plus. Mais ça permet aussi effectivement d'avoir accès à des produits. Et d'ailleurs, dans l'étude, on a fait une étude sur l'inflation et son impact au mois de juin. Et on voit bien que les personnes qu'on a interrogées, eh bien d'abord, elles se reportent massivement sur les produits discount, hein, dans la grande distribution. Donc devenir dans une association d'aide alimentaire, eh bien ça permet une diversité des produits qu'on va leur distribuer. Et puis les deux produits qui sont le plus demandés dans nos associations, eh bien ce sont les protéines, donc la viande, le poisson et les fruits et légumes, parce que ce sont des produits qui coûtent cher dans les réseaux de distribution classique.
Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est les denrées alimentaires qui coûtent le plus cher dans le commerce. Peut-être une dernière question. Vous disiez la question de l'alimentation, c'est aussi un moyen de travailler sur la réinsertion des personnes, de recréer aussi un lien avec des personnes qui parfois aussi sont isolées. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être un des moyens de sensibiliser aussi? Je voyais que vous meniez des campagnes sur l'obésité, sur les questions de santé, sur les questions de logement. Souvent, c'est peut-être un moyen effectivement d'accompagner les gens de manière plus large sur leur qualité de vie finalement.
Bah oui, on crée des partenariats notamment pour le diabète par exemple,
avec
l'Association française du diabète, pour créer des ateliers de sensibilisation, comment je peux être accompagnée en pré-diagnostic déjà du diabète. Pour rappel, dans la population classique générale, c'est 6% de personnes qui sont atteintes par cette maladie. Chez les personnes précaires, c'est 16%. Donc voilà, on mène des campagnes de prévention autour de ces sujets de l'obésité, du diabète, de toutes les maladies qui sont peut-être moins prises en charge et surtout qui ne font pas l'objet de campagnes de prévention aussi fortes que dans la population classique, parce que toute l'énergie de ces personnes, elle se tourne pour trouver un emploi, pour se nourrir correctement, pour se loger. Et donc nous, on est là avec tous nos partenaires associatifs, justement pour les mettre dans un environnement où la question de l'alimentation ne se pose plus ou se pose moins, et donc elles sont peut-être plus sereines,
disponibles.
Plus disponibles pour d'autres accompagnements.
Eh bien écoutez, merci Laurence Champier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération des banques alimentaires. Peut-être rappeler aussi que c'est le dernier week-end du mois de novembre que vous allez faire votre grande collecte nationale.
Oui, alors c'est le 25, 26 et 27 novembre et on vous attend très nombreux dans tous les magasins où nous sommes présents.
Voilà, donc c'est l'occasion aussi de le rappeler, même si effectivement on vous reconnaît avec les gilets oranges dans toute la France. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite eh bien, bon courage pour votre future campagne de collecte et pour toutes les actions que vous allez mener pendant tout cet automne et cet hiver.
Merci beaucoup.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». L'émission cette semaine est consacrée à la question de la précarité alimentaire, aussi aux inquiétudes des banques alimentaires, des associations caritatives qui agissent sur ce champ d'action de la précarité alimentaire et qui, est effectivement, compte tenu de l'inflation, compte tenu de l'explosion du prix de l'énergie, ont fait part de leurs inquiétudes, attendre des mesures gouvernementales, mais aussi, évidemment, une générosité maintenue des donateurs pour pouvoir répondre aux besoins qui augmentent. Pour répondre à nos questions dans cette deuxième partie de la mission, j'ai le plaisir d'accueillir Ouria Tareb, qui est secrétaire nationale du Secours populaire en charge de la Solidarité France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'émission aborde d'abord la question de la précarité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les principales actions menées par le Secours populaire sur ce domaine de l'aide alimentaire et du soutien aux personnes qui ont des besoins ?
Oui, l'aide alimentaire au Secours populaire, c'est une réponse à l'urgence, hein, puisque 99% des personnes qui nous sollicitent, qui viennent dans nos permanences d'accueil, la première demande, elle est vraiment liée à la question du vital. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'une aide alimentaire parce qu'elles n'ont plus rien dans leur frigo, tout simplement. Donc, c'est vraiment notre première réponse à l'urgence. Donc, on intervient dans ce cadre-là. Donc, on apporte, on essaye d'apporter, de leur proposer des produits qui sont divers. On complète par des fruits et des légumes pour essayer finalement de leur proposer des produits un peu plus équilibrés que ce que l'on donne habituellement. Mais c'est vrai qu'on fait malheureusement avec ce que nous avons.
Alors justement, il y a deux difficultés qui semblaient aujourd'hui redouter les associations caritatives et banques alimentaires. C'était d'une part de ne pas être dans les dispositifs de bouclier énergétique tarifaire, puisque en ce moment il y a un débat au Parlement. Et il semblerait que l'appel, le cri d'alarme lancé par les associations ait été entendu, puisque va y avoir, semble-t-il, des évolutions vers l'inclusion de toutes les associations et en particulier celles qui pratiquent l'aide alimentaire.
Oui, oui, pour nous, c'est vraiment nécessaire parce que le fonctionnement, ça reste une charge importante pour les associations. Nous avons des frigos, on a dû adapter l'aide que l'on fait auprès des personnes en précarité. On a dû s'équiper parce que c'est obligatoire, on respecte les normes d'hygiène et de sécurité. Oui. Donc nous avons tous des chambres froides, des camions frigorifiques.
Ça consomme beaucoup d'énergie.
Exactement, les chambres froides consomment énormément d'énergie. Enfin, nous, pour le voir, notamment dans nos centrales de collectage, où quand même on stocke énormément un volume très important, ben oui, ça fonctionne jour et nuit et ça consomme énormément d'énergie.
Et donc, évidemment, le risque, c'est ce que disent les associations, c'est que s'il faut payer ces factures qui explosent, bah, c'est moins d'argent qu'on va pouvoir utiliser pour vos bénéficiaires.
Exactement, c'est-à-dire que ça va malheureusement, ça va diminuer notre budget qui est destiné habituellement à la solidarité. Voilà, donc c'est vrai que ben forcément, ça va jouer dans notre budget, ça c'est certain.
Alors ça pèse déjà, et évidemment le but c'est que ça ne pèse pas trop lourd. L'autre sujet, c'est que comme toutes les associations ou les banques alimentaires, vous pratiquez aussi des campagnes de collecte.
Oui.
Auprès de différents partenaires, auprès sans doute des particuliers aussi. Est-ce que vous craignez, parce que finalement c'est vrai que l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie frappent d'abord les plus modestes, mais elle frappe aussi tous les autres ménages. Donc est-ce que vous avez peur que la générosité de celles et ceux qui chaque année participent à vos collectes et donnent, que ce soit d'ailleurs de l'argent ou que ce soit des denrées, est-ce que vous craignez que justement cette générosité elle soit fragilisée par le fait que bah, même dans les ménages plus aisés, on perd du pouvoir d'achat compte tenu de cette situation?
Oui, elle risque de se fragiliser parce que, comme vous dites, elle touche aujourd'hui une population qui ne vient pas forcément aujourd'hui nous demander une aide alimentaire, qui nous soutient, qui nous apporte justement tous ces dons qui nous permettent de faire la solidarité derrière. Et c'est vrai que ça va aussi toucher leur porte-monnaie. Donc forcément, les dons vont être moins conséquents.
Et vous en parlez avec ces donateurs, enfin vous avez des échanges et vous sentez que peut-être on vous dit bah, que cette année il y aura le chèque de donation sera moins important, que effectivement il y aura peut-être moins de facilité à pratiquer cette générosité qui est une partie importante de vos collectes.
Oui, on discute énormément, oui, avec nos donateurs. Je pense que la générosité, la solidarité, elle va rester, elle existe. Seulement, elle sera moins importante que d'habitude. Ça c'est certain.
Alors, on a aussi, grâce au Secours Populaire, une enquête sur l'état de l'opinion par rapport à la pauvreté et la précarité. Et les résultats de cette enquête montrent que le seuil de pauvreté ressenti augmente et de plus en plus de gens ont le sentiment eh bien, d'appartenir d'être autour, si ce n'est au-dessous, mais enfin de faire partie du seuil de pauvreté. Et est-ce que vous le sentez vous aussi?
Oui, je pense que ce sondage est vraiment frappant. Quand on revient au premier sondage que le Secours Populaire et Ipsos ont réalisé, donc il y a plus de 15 ans, on était à le pourcentage était vraiment inversé. On avait moins de personnes qui étaient, on va dire, se sentaient concernées par la précarité. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une augmentation très importante. Je pense que la crise sanitaire, elle a grossi les chiffres. La crise sanitaire, malheureusement, a touché un nombre important de personnes, y compris les personnes qui, jusqu'à présent, étaient protégées par l'emploi, parce qu'elles pensaient avoir un emploi sûr. Donc, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Elles se sentaient éloignées, on va dire, de la précarité. Aujourd'hui, les personnes qui ont été sondées, je crois qu'il y avait plus de 87% d'entre elles qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, et plus de 60 et quelques pourcents ont connu un proche, un ami ou qui a connu une situation de pauvreté. Donc on voit bien quand même que les chiffres ils sont vraiment en augmentation, et aujourd'hui on se sent plus à l'abri de cette précarité, malheureusement.
Oui, c'est ça. Alors, on va donner le chiffre qui est issu de l'enquête menée par Ipsos pour le Secours Populaire. Hein, à la question, pour vous, quel est le revenu net par mois pour une personne seule qui peut être considérée comme pauvre dans un pays comme la France, on est passé de, il y a quelques années, à 1100 euros. Aujourd'hui, les gens indiquent que de manière subjective, hein, c'est oui, vraiment les réponses, il y a une part, une majorité de gens qui sont subjectivement, qui considèrent qu'à partir de 1263 euros, enfin en dessous de 1263 euros, on est touché par le seuil de pauvreté. Ce qui est un peu différent des données de l'INSEE, qui sont, elles, à 1100 euros, mais encore une fois, l'enquête, elle ne vise pas à donner un chiffre statistique, mais un ressenti d'un échantillon de population.
Oui, c'est ça. Ben, aujourd'hui, on ne vit plus. On vit plus avec un SMIC, par exemple. On sait bien que les charges et le coût de la vie a augmenté. Le SMIC, les personnes qui travaillent et qui perçoivent un revenu équivalent au SMIC ne peuvent plus vivre. C'est-à-dire qu'elles sont obligées aujourd'hui de faire abstraction sur certains besoins parce qu'elles n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est-à-dire que ce public-là a toujours vécu sur le fil du rasoir. Donc aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un accident de vie. Et ils basculent dans la précarité. Et ça, on le constate sur le terrain.
Alors, il y a un autre indicateur dans ce sondage qui est frappant, c'est la part des Français qui connaissent un proche en situation de pauvreté, qui passe de l'année dernière 55% de oui, réponse positive, à 65%.
C'est ça, c'est ce chiffre moi qui m'a vraiment interpellée, parce que comme je vous le disais, quand on a commencé ce sondage il y a plus de 15 ans, on était à 10 milliers d'avoir ce chiffre-là. Donc aujourd'hui, on sent bien que la crainte vraiment de basculer dans la pauvreté est importante, parce que on n'a jamais eu un chiffre aussi important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 60% des personnes connaissent une personne, un proche, un ami qui a connu la précarité. Donc c'est quand même un chiffre assez important et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte.
Alors il y a aussi dans cette enquête un focus sur la pauvreté et les enfants. Ce que nous disait Laurent Champier, qui était notre invité juste avant sur ce sujet de la précarité alimentaire, elle disait que les banques alimentaires, c'était 30% de bénéficiaires étaient des femmes seules avec enfants. Donc, beaucoup de familles monoparentales et beaucoup d'enfants directement concernés.
Oui, ben nous, les enfants, ça représente plus de la moitié du public que nous accueillons. Et c'est pour le Secours populaire, c'est très inquiétant parce que aujourd'hui, ça touche pas que ça touche pas que les adultes. Les enfants sont les premières victimes de cette précarité. Et c'est très inquiétant parce que pour les parents, c'est compliqué, c'est difficile. Et pour les enfants, c'est encore plus difficile. Donc c'est vrai que on a intérêt à rester vigilant par rapport à ça, parce que si l'enfant est encore touché et devient une vraie victime, hein, parce que c'est quand même l'enfant n'a pas choisi d'être touché par cette précarité, c'est vraiment inquiétant pour nous.
Alors justement, ce que nous disait aussi Laurent Champier, c'est que il y avait aussi des gens qui avaient du mal à franchir la porte d'une épicerie sociale ou d'aller vers une association caritative, parce qu'il y a la question de la dignité et puis il faut et du coup comment est-ce justement on peut parler avec ces personnes et aussi avec des enfants de du fait d'être à un moment donné dans sa vie en situation de pauvreté et donc de devoir demander l'aide d'une association ou d'une organisation.
C'est vrai que la question de l'aller vers ce public, il est important. Nous, on essaie de trouver des alternatives, parce que c'est vrai que parler de la question alimentaire directement, c'est compliqué pour ce public, parce que c'est un public qui jusqu'à présent ne venait pas au Secours populaire, il a du mal à franchir les portes des associations. C'est vrai que c'est compliqué, ça touche à sa dignité, ça touche à une image qu'on leur
c'est ça, l'image de soi.
Voilà, une image de soi. L'image qu'on a aujourd'hui du public en difficulté, il n'est pas très valorisant. Donc c'est vrai que pour une personne qui se retrouve dans cette situation-là, c'est compliqué pour elle de parler de sa situation de précarité ou de pauvreté pour certains. Et on essaye de trouver des alternatives, c'est-à-dire qu'on va aller par d'autres biais. On va aller par le biais, de, par exemple, des questions de la santé, par rapport aux questions de l'accès sportif. On va essayer d'aller vers elles par d'autres biais, en fait, pour pouvoir les approcher ou les aborder différemment que par la question de l'aide alimentaire, qui est peut-être un peu plus compliquée. Ils ont plus de mal à se livrer. Mais c'est vrai que aller vers, c'est important. Aujourd'hui, ce public-là ne vient pas forcément justement dans nos associations parce que il a du mal à la franchir, la porte, parce qu'il a honte. Voilà. Donc c'est vrai qu'on essaie d'aller vers eux en essayant de proposer des sujets qui sont communs à tout le monde et qui vont établir un peu un lien de confiance. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que les enfants en parlent plus difficilement, parce que pareil, il y a le regard de l'autre. Nous, on essaye de mobiliser les enfants dans le cadre des activités de solidarité. Quand on leur parle de pauvreté, est-ce que vous en parlez entre vous, etc. On le sent bien, ils n'en parlent pas beaucoup entre les enfants. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux aussi, parce que il y a le regard de l'autre, il y a l'image qu'ils vont donner, etc. On le perçoit beaucoup chez les enfants et les étudiants notamment. Les étudiants ont eu énormément de mal à venir vers nous pour nous demander une aide, ne serait-ce qu'une aide d'urgence, une aide alimentaire. Le pas est très difficile à franchir.
Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, on se rappelle que au moment du Covid, il y avait ces files d'étudiants qui étaient venus demander la solidarité parce que les restaurants universitaires étaient fermés et qu'ils étaient en grande difficulté sur la question alimentaire.
Oui, ça a vraiment révélé en fait les difficultés que rencontrent ces jeunes étudiants. Parce que jusqu'à présent, ils étaient un peu, on va dire, je dirais pas dans l'ombre, mais en tout cas, ils étaient un peu invisibles.
Oui, on les voyait pas, on n'en parlait pas.
Voilà, trop. C'est ça, ils étaient vraiment invisibles. Et là, ça a vraiment révélé la précarité étudiante. Que ça soit au niveau du logement, que ça soit au niveau alimentaire, des conditions de vie, de leur souffrance psychologique aussi pour certains. Et c'est vrai qu'on a dû faire face à une arrivée importante de ces étudiants. Il a fallu adapter nos solidarités parce qu'ils ont énormément de problématiques. Elles sont liées à l'alimentaire, bien sûr, parce que c'est ce qui leur permet de... C'est la première aide vitale, mais ils ont énormément de problématiques, notamment par rapport à l'accès au logement, par rapport à tout ce qui est aide au transport, etc. Parce que ces jeunes, pour la plupart d'entre eux, essayent de cumuler des petits emplois, et pour certains, c'est compliqué parce qu'ils ont cours toute la journée, etc. Ça a vraiment révélé cette précarité quand même qui était vraiment invisible.
Alors, dernière question, c'est ce sujet sur la précarité aussi des étudiants qui m'y fait penser. C'est que votre association, comme les autres associations caritatives et les banques alimentaires, fonctionne notamment grâce aux bénévoles. Justement, quels sont les profils un peu des bénévoles ? Vous avez sans doute aussi des étudiants, des retraités. Qu'est-ce qui vous permet justement de faire vivre vos activités au quotidien ?
Honnêtement, on arrive à vivre et à proposer autant de solidarité grâce aux bénévoles, heureusement qu'ils sont là. Nous avons une majorité de bénévoles jeunes retraités, ou voire retraités depuis quelques années, qui sont sur des postes souvent à responsabilité, qui sont là régulièrement dans notre association. Et ensuite, on a beaucoup d'étudiants, nous avons des actifs, énormément d'actifs qui s'impliquent dans les activités de solidarité le soir ou le week-end, qui sont moins présents, mais ça c'est lié au fait qu'ils travaillent, qu'ils ont une famille, etc. Ils ont moins de temps à donner, mais ils sont quand même présents. Donc c'est vrai que l'engagement bénévole a un peu évolué. Ils ont peut-être moins de temps à donner, mais ils restent présents. Nous sommes contents d'avoir finalement toutes ces personnes retraitées actives à nos côtés, parce que c'est notre socle, c'est celle qui nous permet vraiment de tenir et d'être là tous les jours. Et tous ces bénévoles qui vont et qui viennent, mais qui restent quand même nombreux.
Bah écoutez, on va terminer sur cette note positive, hein, C'est,
oui.
Parce que c'est vrai que le climat est un peu anxiogène, un peu lourd, mais bon, il y a encore, et heureusement, des gens qui s'engagent et que la générosité est là pour aider les plus démunis. Merci, Ouria Tareb. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du Secours Populaire en charge de la Solidarité France.
Oui.
Et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci, merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.